Question d'aujourd'hui avec Renaud Grégoire.
Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. La catéchèse biblique symbolique, nous avons la chance d'avoir avec nous Colette Beauchemin, qui est agente de pastorale depuis plus de 35 ans, co-responsable de la formation à la vie chrétienne pour le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Elle a des études en théologie pastorale, une maîtrise à la faculté de théologie de l'Université de Montréal. Elle a une formation en catéchèse biblique symbolique. Elle est la présidente de l'Association québécoise de catéchèse biblique symbolique. Et elle est mariée. Et elle est mère de deux filles et grand-mère deux fois. Colette, bienvenue. Colette Beauchemin, bienvenue.
Merci beaucoup, Renaud.
C'est un plaisir de vous recevoir. Et ça fait très longtemps que je souhaitais que nous puissions ensemble parler de la catéchèse biblique symbolique, peut-être très peu connue. Peut-être pas assez connue aux auditeurs, aux auditrices, mais quand même une approche qui a vraiment fait ses preuves. Et j'aimerais que vous nous parliez d'abord de l'association de la catéchèse biblique symbolique, de votre association.
Oui, avec vraiment une grande joie parce que en fait, on a déjà atteint 20 ans d'âge. Ça a été fondé en 2003, j'étais là. J'étais la première présidente.
Et vous êtes toujours présidente.
Ben, j'ai pas été tout le long. Mais ça a été une joie de fêter 20 ans déjà. Et c'était à cette époque-là, il y avait encore la pastorale scolaire. Alors, c'est sûr que ça visait beaucoup le soutien aux catéchètes responsables de l'animation pastorale dans les écoles. Donc, c'était une autre époque. Mais ça l'a vraiment bien vieilli, on pourrait dire, parce qu'au fur et à mesure, l'association s'est renouvelée dans toutes ces années. Elle a été vraiment capable de se renouveler. Et encore aujourd'hui, on vient de vivre un discernement communautaire toute l'année passée pour essayer de regarder l'avenir ensemble. Puis on l'a fait avec des jésuites qui nous ont aidés à discerner la vocation de l'association, si elle était encore, si elle avait encore lieu d'être. Puis ça l'a vraiment renouvelé l'élan de ceux qui sont là. Beaucoup moins nombreux, mais tellement enflammés, tellement désireux de vivre cette approche et en faire bénéficier les autres. Entre-temps, c'est ça, depuis le début, ça a changé beaucoup son orientation parce qu'il y a moins de catéchèses à l'enfance.
Oui, c'est un fait.
Et il y a eu un tournant qui se fait graduellement vers les adultes. Alors, depuis la pandémie, l'association offre des catéchèses en ligne. Et ça regroupe des gens désireux de vivre cette approche-là pour eux-mêmes. Puis ça devient un lieu de formation permanente pour ceux qui veulent découvrir et pratiquer cette approche-là. Puis ça permet aussi de voir des gens de partout. C'est ça qui est génial. C'est le fait que maintenant, Zoom s'est rendu chose courante là, oui, dans la vie des gens.
Exactement.
La pandémie nous a rendus un petit peu plus à l'aise avec ces médias-là. Et la catéchèse en ligne, ça se fait super bien. Ça permet d'avoir des sous-groupes d'échange de la parole qui permet à chacun d'apprivoiser comment la parole parle à sa vie avec un espace pour sa prise de parole, la prise de parole de chacun. Ça, c'est vraiment au cœur de la catéchèse biblique symbolique. Donc, c'est pas une approche d'interprétation des Écritures d'abord, c'est une approche d'une pédagogie de la parole. De la parole libre.
Et l'association regroupe qui actuellement?
C'est beaucoup des personnes qui n'ont pas nécessairement des responsabilités en catéchèse auprès des enfants. C'est des gens qui sont en paroisse, qui vont fréquenter d'autres groupes d'adultes, qui vont pratiquer ça aussi dans leur environnement. Puis, c'est ceux qui fréquentent eux-mêmes la catéchèse en ligne aussi. Donc, on sait qu'il y a des gens qui viennent là en se ressourçant, la catéchèse en ligne, mais on ne sait pas toujours jusqu'où ça rayonne. On sait qu'ils viennent se ressourcer, qu'ils peut-être continuent de faire de la catéchèse avec les enfants et tout ça. Mais c'est sûr que de mon côté, depuis que j'ai été formée, j'ai toujours été inspirée par cette approche-là. Donc, je dirais, là où c'est le plus vivant au niveau catéchétique des enfants, des ados, des adultes, c'est dans le diocèse Saint-Jean-Longueuil. Parce que on a tous été un peu influencés par cette approche-là. C'est notre inspiration de fond. Donc, notre grand parcours catéchétique qui s'échelonne sur plusieurs années, dans le sens qu'on revisite des textes à tous les 6 ans, on est comme en mode, on retourne vers les mêmes textes. Ça prend du temps avant d'avoir fait le tour de notre parcours. Donc, on est toujours en mode redécouverte. Et ça, c'est avec tous les nouveaux d'âge qu'on travaille. Puis, c'est l'inspiration de fond depuis que je suis là, en fait, parce que j'ai travaillé toujours, j'ai toujours mis la main à la pâte à la formation depuis ce temps-là.
Alors, ce que vous nous décrivez, c'est absolument formidable, Colette Beauchemin. Revenons au début, donc, la catéchèse biblique symbolique. Qui sont les personnes qui sont derrière cette approche?
Oui. Alors, les fondateurs sont français. Claude et Jacqueline Lagarde. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu ce nom-là. Donc, eux, ça remonte déjà à un bon bout parce que Jacqueline, qui est née en 1932, donc elle a 93 ans, toujours vivante, toujours aussi active. C'est surprenant, cette force de vitalité. Elle a rencontré Claude Lagarde dans les années 1973. Puis, elle était journaliste à ce moment-là au Centre national des scouts de France. C'est dans le domaine du scoutisme qu'ils se sont rencontrés.
Dans cette atmosphère de scouts,
exactement. Puis là, ils se sont mariés, ils ont eu 2 enfants. Claude, lui, est un petit peu plus jeune qu'elle, il est né en 37. Et il avait une formation d'ingénieur militaire, il a d'ailleurs fait de la guerre d'Algérie. Et il avait une formation en théologie puis en langue ancienne. Ils se sont rencontrés, ils ont fait du scoutisme ensemble, ils se sont mariés. Et la première expérience où est-ce qu'ils se sont vraiment avancés là, tous les deux dans cette recherche, c'est en 73, où est-ce que, dans le sens d'une recherche-action, on pourrait dire, parce que l'Institut Saint-Joseph, que je ne connais pas, mais qui était une expérience novatrice à l'époque, c'était dans le diocèse de Nanterre, ils avaient demandé au Lagarde de faire une expérience pilote un peu avec des familles de milieux très défavorisés et très disparates, là, je dirais, d'origines diverses, dont seulement 15% étaient des pratiquants. Donc, à l'époque, c'était très évangélisateur.
Alors, il y a quelque chose d'intéressant.
Oui.
Donc, se sont adressés à des familles qui étaient peut-être un peu exclues,
oui,
si je comprends bien, et seulement 15% avaient une base chrétienne.
C'est ça.
Donc, ça veut dire que 85% ne l'avaient pas.
Oui.
Et donc, il fallait qu'ils expérimentent quelque chose de neuf.
Exactement.
Claude et Jacqueline Lagarde.
Oui. Donc, ils ont créé. Ils ont créé, ils ne pouvaient pas utiliser les manuels, ce n'était pas utile, ce n'était pas adapté. Alors, ils se sont mis à, finalement, rencontrer ces familles-là sans manuel autre que la Bible.
Ça, aucun c'est intéressant. Manuel,
la Bible.
Que la Bible.
Oui. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils racontaient la Bible, ils faisaient discuter la Bible, ils faisaient mémoriser la Bible et ils faisaient prier la Bible. Peut-être que tu reconnais quelque chose là-dedans. C'est comme de la lectio divina communautaire, je dirais.
Oui. Colette Beauchemin, pouvez-vous juste répéter ces verbes importants,
oui,
ce qu'ils ont fait?
Oui, hein?
Ils sont très importants.
Ils ont raconté la Bible.
Raconté la Bible.
Ils ont fait mémoriser la Bible, dans le sens que ça reste en mémoire pour que ça devienne un matériau de parole pour discuter, pour échanger. Ils sont mis à faire discuter sur ces textes-là pour que ça devienne un langage pour prier. Alors, Claude Lagarde nous a souvent rappelé que finalement, l'inspiration de fond, c'est une lectio divina en œuvre dans une communauté. Parce que c'est les mêmes étapes. On écoute, on fait comme creuser, puis on prie la parole. Alors moi, je trouve ça très inspirant parce que c'est comme si c'est une inspiration qui nous vient de beaucoup plus loin. En fait, ils ont comme rénové une pratique de lectio divina qui était essentiellement pratiquée, je veux dire, dans les monastères, dans une pratique plus privée. Mais c'est vraiment une lectio divina communautaire quand on regarde ce qu'elle fait dans le réel. Et là, dans les échanges qu'ils ont entrepris avec les personnes, c'est là qu'ils sont mis à observer comment ça résonnait. Comment ils reprenaient la parole, comment ça résonnait en eux et ils analysaient ce qui était dit. C'est ça l'originalité aussi de leur pratique qui a donné lieu à des repères pour mieux accompagner Donc, ça devient très pertinent pour nous. C'est qu'ils écoutaient. En fait, ils ont même enregistré des milliers d'enregistrements. Ils retranscrivaient pour analyser où est-ce que ça bloquait, où est-ce que ça faisait des difficultés pour en arriver à une compréhension plus intérieure pour nourrir la spiritualité. Pour pas que ça reste juste à l'extérieur, mais que ça devienne une parole qui parle, qui nourrit la foi. Et ça, c'est devenu les niveaux de parole. Ils les ont explicités, puis c'est devenu les repères pour accompagner les niveaux de parole.
Alors, raconter. Alors, si on allait avec raconter. Alors, ça veut dire que Claude et Jacqueline Lagarde prenaient un texte de la parole de Dieu. Prenons un exemple de la multiplication des pains. Et ils racontaient à ce moment-là?
Ils racontaient en sachant que à qui ils s'adressent? Est-ce que c'est à des enfants? Donc, ils ne vont pas faire une lecture recto-tonneau.
Hein? Voilà.
C'est déjà en partant, on sous-entend qu'eux ont ruminé la parole, ils en ont tout saisi, la force transformatrice. Ils ont vu à quel point les mots, les images sont importantes. Et étant donné qu'ils regardent, écoutent très bien comment c'est reçu, ils ont développé tranquillement, pas vite, beaucoup la conscience que, par exemple, à l'enfance, les images sont super importantes. Tout le discours, on l'oublie. Les enfants oublient. Ils voient les images, ils restent focussés sur les images, sur le narratif, sur l'histoire, sur le développement de l'histoire. Et ça, c'est devenu comme une manière de raconter qui marque l'imaginaire. Mais tout le monde aime se faire raconter des histoires, hein, Renaud? Tout le monde aime ça. Donc, raconter, ça pouvait s'adapter à tous les âges. Ça, c'est une base. Mais une fois qu'on s'est fait raconter, l'histoire est juste emmagasinée. Mais comment elle est emmagasinée? Et comment, quand on se met à en parler, on entend comment c'est emmagasiné dans la tête, dans le cœur? Parce que c'est joint à l'affectif aussi. Donc, là, ils ont comme saisi qu'il y avait des manières de parler après s'être fait raconter. Et c'est ça qu'ils ont analysé aussi.
Et la mémorisation, est-ce que ça veut dire que ces familles, ces jeunes... De cette expérience pilote, est-ce que ça veut dire qu'ils doivent apprendre par cœur?
Ben c'est une sorte de par cœur, mais pas un par cœur niais, là. Pas un par cœur juste de...
Mot à mot?
Non, pas un mot à mot, mais en faisant juste de revenir sur l'histoire puis dire, raconte-moi ce que je t'ai raconté, c'est de laisser la parole en même temps sortir comme elle sort. Mais avec le plus possible de précision pour qu'après ça, on puisse en discuter. Donc, s'il y a comme une erreur importante dans le sens de l'interprétation qui a été mise en mémoire, bien là, on va aider le groupe à se régulariser entre eux pour dire, c'était-tu vraiment ça qui était raconté? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent que c'était un peu autrement? Puis là, on va faire comme... essayer de garder tous les morceaux assez intacts pour qu'on puisse ensuite entrer dans l'interprétation.
Prenons l'exemple de la multiplication des pains.
Oui, oui.
Une des choses qui est souvent oubliée, je pense, ce sont les quatre verbes qui sont utilisés.
Oui.
Les gens vont peut-être dire, Jésus était avec une foule, les gens avaient faim, puis il a pris des pains et des poissons, puis il a multiplié. C'est souvent le premier.
Oui, oui.
Mais c'est plus que ça, le texte, si je comprends bien.
Oui,
le texte est beaucoup plus riche. Oui. C'est une très bonne mémoire, mais elle est insuffisante. Donc, dans l'échange, ça permet aussi donc de
ramasser les morceaux.
De ramasser tous les morceaux, c'est
pour
le cas de dire.
Pour que tous les paniers soient remplis.
C'est le cas de dire.
Oui.
Toujours en compagnie de Colette Beauchemin, on se disait il y a quelques instants, Claude et Jacqueline Lagarde font avec des familles, moins favorisées, cette expérience. Et ils vont, vous avez dit, ils vont enregistrer ce que les jeunes disent. Et c'est là qu'à travers les enregistrements, ils vont nommer leur approche.
Oui, ils vont...
Catéchèse biblique symbolique.
Oui. Je ne sais pas à quel moment c'est devenu cette appellation-là, mais ce qui est au cœur de leur découverte, c'est que le rapport à la Bible change. Et si on est très attentif, on le voit changer. Et ils ont appelé ça des niveaux de parole. La parole, se transforme. Donc, c'est le rapport au texte qui change.
On va parler de ces quatre niveaux de parole pour les approfondir. On a touché un peu un mot, mais continuons sur l'origine aussi de l'association, la catéchèse biblique symbolique, qui sont les pionniers au Québec. Donc, ouais. Il y a Claude et Jacqueline Lagarde qui sont en France. Ils publient des livres, on en parlera un petit peu plus tard. Mais comment c'est arrivé ici au Québec?
Bien, il y a eu une personne très importante dans mon cheminement, mais dans le cheminement au Québec. C'est Gaston Raymond qui est décédé aujourd'hui. D'ailleurs, c'était...
Un Dominicain?
Oui, un Dominicain. Il m'a formé. C'est lui qui m'a formé. C'est lui qui m'a fait découvrir ça. Ça a été wow! J'étais à l'Institut pastoral des Dominicains à l'époque. Je commençais mes études. Quelle grâce! C'est arrivé au début de mon parcours. Alors, ça l'a complètement... transformer toute ma pratique à partir de ce moment-là. J'étais déjà en pastorat scolaire et j'avais même peur de ne pas durer longtemps parce que je trouvais que c'était redondant ce qui se faisait en pastorat scolaire. Ça ne me plaisait pas trop. Puis quand je suis arrivée avec cette entrée-là dans la Bible, avec toutes comme les possibilités que ça ouvrait de prise de parole sur la Bible, ça m'a emballée vraiment. Puis je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Et depuis 35 ans, c'est ça que je fais.
Depuis <J'adore>. 35 ans.
C'est ça. Alors, Gaston Raymond a été vraiment un pionnier. Il m'a formé et il était là au début de l'association. Donc, depuis ce temps-là, il y a eu l'association a été formée par Rémi Bourdon, qui était à ce moment-là conseiller en éducation chrétienne du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, dans une commission scolaire à l'époque. C'est lui qui a ramassé les gens intéressés. On a formé l'association. Ça a commencé de là. Il y avait déjà Yves Guérette, pour ceux qui le connaissent, qui est le doyen de l'Université Laval, qui était dans ce réseau-là, parce qu'à Québec, lui avait déjà commencé à pratiquer cette approche-là, parce qu'aussi, il était allé se former en France avec les Lagarde. Suite à... Quand Gaston a découvert aussi les Lagarde, c'est d'abord avec des livres. Puis là, on les a fait venir au Québec, les Lagarde. Et là, il y a eu plusieurs sessions à l'Institut pastoral des Dominicains qui rassemblaient beaucoup de gens. Donc, probablement, de là est né aussi des pratiques dont on ne sait pas trop le rayonnement jusqu'à ce jour, qui se sont perdues peut-être dans les endroits où ça a eu lieu. Puis, dans le même temps, sans qu'on sache, sans être branchés ensemble, il y avait Denis Plante, c'est un prêtre du diocèse de Saint-Hyacinthe, qui avait découvert les livres, qui avait commencé à former des gens dans son diocèse à Sherbrooke. Donc, c'est un peu les éléments clés du début au Québec, ça.
Comment ont été reçus Claude et Jacqueline Lagarde dans les sessions qu'ils donnaient à Montréal et peut-être ailleurs? Ouais. Comment ils étaient reçus?
Bien, je dirais que c'était mitigé parce que c'était étonnant.
C'était surprenant.
C'était surprenant parce qu'il y avait une manière de raconter, il faut dire que ça déculottait, comme on pourrait dire, parce qu'il provoquait l'étonnement. Parce qu'on va en parler dans les niveaux de parole, comment l'étonnement est un passage vers un sens plus profond des Écritures. Donc, il y avait cette façon de raconter qui faisait comme soulever plein de questions, ça donnait le goût d'approfondir, ça donnait le goût d'en parler. Alors ça a été vraiment intéressant. Il y avait le fait qu'au début, le fait qu'ils posaient la question « qu'est-ce qui vous pose question? » C'était drôle comme question au Québec. C'est comme si on n'était pas tout à fait prêt à entrer dans la Bible en se disant « oh, c'est bizarre, ça pose question. »
Il y a des choses un peu étranges.
Un peu étranges. Puis le fait qu'ils c'était officiellement dans leur approche, ils appelaient ça la parole de doute, ils ont fini par changer un peu l'appellation parce que ça heurtait vraiment beaucoup les gens de dire « ben on ne peut pas douter ». Mais en fait, ce n'était pas un doute négatif, c'était un doute constructif. Qui fait que tu remets en question ta première représentation.
Ah, on remet en question notre première représentation du texte biblique, oui. De l'histoire biblique.
Oui, mais le langage reste parce qu'il continue de parler, mais autrement. Mais il faut passer une frontière. Donc, l'étonnement, ça fait partie du processus. C'est comme passer de la foi de l'enfant à la foi adulte, on pourrait dire. Et c'est un passage. Je dirais même que c'est un passage... Pascal, dans le sens du mystère Pascal, parce qu'on meurt à une certaine manière de comprendre les choses. Mais c'est une résurrection, parce que là, ça devient tellement lumineux de sens quand on est rendu dans une vision plus existentielle du langage. Ça parle à l'expérience humaine.
Donc, les Claude et Jacqueline Lagarde ont publié des livres, des livres qui ont été accueillis en France, qui ont été soutenus aussi par l'Église catholique,
oui.
Avec leur leur propre groupe qui s'appelle Ephata, je pense.
Oui.
Ephata. Alors, on va parler des niveaux de parole parce que c'est
le cœur.
Je comprends que c'est le cœur. Donc, ils ont écouté ces familles, ils ont vraiment écouté en essayant de voir comment ces familles, ces jeunes, et aussi avec tout leur groupe Ephata, comment ils s'appropriaient donc la parole de Dieu, comment ils mémorisaient, comment ils en discutaient, comment ils priaient. Alors, ils ont mis, je pense, des couleurs.
Ben oui. Ah, c'est pas essentiel pour qu'on comprenne ce qu'ils veulent dire, mais je pense qu'ils voulaient faciliter la chose. C'est pour faciliter la compréhension du processus. Si on n'est pas habitué, pourquoi avec les processus, nous autres? On aime ça qu'on aille direct au but. Alors, c'est de prendre conscience que quand on a le langage de la foi, on peut y entrer. C'est un processus. Y entrer de l'intérieur. Mais on commence d'abord à l'extérieur. La première représentation qu'on a quand on se fait écouter, rencontrer une histoire, c'est qu'on la comprend comme si elle se passait devant nos yeux. Et en plus, dans le passé, c'est comme extérieur à nous. C'est la première façon de comprendre. Ils ont appelé ça la parole anecdotique ou la parole descriptive, on pourrait dire. Ils l'ont codé bleu.
C'est très beau.
C'est bleu. C'est bleu comme le ciel bleu. Donc, c'est juste pour se rappeler que c'est le premier rapport au texte. Alors, c'est le premier rapport de l'enfant, mais c'est notre premier rapport comme adulte tout le temps. Parce que le premier rapport, c'est d'abord de prendre connaissance de l'histoire. Et la première façon dont on l'entend, c'est comme une histoire devant nos yeux, à l'extérieur de nous.
Ça, c'est vrai.
Ouais.
C'est vrai, vous avez tout à fait raison. On prend, même si c'est la
On le prend mot à mot.
Même si c'est la parole de Dieu, ça reste extérieur à nous.
C'est ça. Mais il y a un chemin.
Mais ce n'est pas la seule étape.
C'est ça. Puis souvent, on a confondu la catéchèse avec l'apprentissage du langage. Mais eux, leur force, c'est d'avoir compris que ça, c'est juste la première étape.
Voilà. Et il y a une deuxième étape qui est la mémorisation, c'est bien
oui.
ça?
Oui, mais la mémorisation, en fait, c'est l'objectif pédagogique qui va avec cette première étape-là. Là, c'est ça que j'aimerais peut-être laisser voir. En même temps qu'on voit les niveaux, on peut comprendre qu'il y a une cohérence pédagogique qui va aller avec l'accompagnement. Comment on va s'y prendre pour que ça soit consolidé pour vivre les autres étapes? Donc, la parole descriptive, il faut qu'elle soit présente assez consolidé pour qu'on puisse entrer dans une autre étape de langage, une autre étape de parole, je dirais avec, qui vient assez spontanément. Parce que l'intelligence, la façon dont elle fonctionne, c'est quand on entend quelque chose de neuf, pour le comprendre, on va essayer de le rapprocher avec quelque chose de connu. C'est la façon dont notre intelligence fonctionne. Donc, si on donne la parole à un enfant sur une histoire, il va nous la raconter, puis après ça, pas juste après ça, en même temps, il va dire « Ah, mais ça me fait penser à… »
Donc, c'est lui aussi qui raconte.
Oui.
C'est pas juste les animateurs, les catéchètes.
Non, bien sûr que non.
C'est lui aussi qui doit raconter aussi l'histoire.
Tout à fait. En fait,
ça, c'est très important.
Oui, 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 oui.
Parce que ça n'a pas été toujours c'est une étape qui a été souvent escamotée. On raconte l'histoire, puis on pense que les jeunes ont compris ou les adultes ont compris.
Oui, c'est ça. Alors que quand on leur donne la parole, on se rend compte que juste le fait qu'ils doivent raconter, ils doivent aller chercher dans leur mémoire qu'est-ce qu'ils ont enregistré, et là, ils voient qu'il y a des trous. Puis quand on le fait avec des adultes, ce qui est intéressant, c'est de réaliser quand on retourne dans le texte, « Ah, on avait oublié ça. Ah, mais pourtant, c'est important. Mais on l'avait oublié. » Et on devient encore plus observateur, on devient encore plus présent à ce que dit le texte. La partie de la lecture divina, la première, c'est « Qu'est-ce que dit le texte? » Ça dit ça. Après ça, on pourra se poser des questions. Pourquoi ça dit ça?
Oui.
Mais c'est ça.
Mais il faut se souvenir que ça dit ça.
Et spontanément, si on raconte une histoire à des enfants, puis les adultes, on est pareil, c'est comme des discussions de salon. Ah oui, ça me fait penser à... On raccroche, on attache, on relie à pareil ou à différent. Et ça, c'est un niveau de parole comme tel. C'est un niveau de parole d'une certaine interprétation qu'on essaie de donner en rapprochant les choses avec des histoires connues, des événements de vie. Par exemple, un enfant va se faire raconter, je garde ton exemple de la multiplication des pains, il va dire, l'autre jour, on a fait un pique-nique. Pourquoi ça raccroche? Parce que c'est une image. Donc, il ne se mettra pas à dire un discours sur ça, il va accrocher d'image à image, c'est les premiers rapprochements. Donc, ces niveaux de parole-là, ça devient des objectifs pédagogiques pour l'enfance, parce que c'est jusqu'à 9 ans que ça va être comme ça.
Et il y a aussi un autre, le troisième niveau, on dit troisième, là. Je pense que le rapprochement, ils ont mis une couleur.
C'est vert.
C'est vert, voilà. C'est vert, c'est beau.
C'est vert.
On fait des liens.
Oui.
Mais, et puis, il y a cette parole d'étonnement.
Oui. Qui arrive.
Qui arrive, on est étonné.
On est étonné parce que quand on fait des rapprochements, puis qu'on est dans les paroles descriptives, on comprend les choses au premier degré. Mais la Bible, elle ne parle pas au premier degré seulement.
Exact.
Et là, elle dit des choses tellement étranges qu'à un moment donné, quand on ne le prend pas au bon niveau, il y a un malentendu. On n'entend pas bien ce que ça veut dire vraiment parce qu'on le rapproche juste avec quelque chose de concret. Alors que c'est de l'ordre d'une vision intérieure des choses. Donc, il faut entrer dans l'autrement dit. J'aime bien cette expression-là.
L'autrement
c'est un vrai autrement. L'autrement dit qui est vrai autrement. Et l'enfant, et nous souvent, vu qu'on a une mentalité très matérialiste, on est piégé avec le mot vrai-faux.
Oui.
Parce qu'on pense que ou c'est vrai ou c'est faux, alors que la Bible, elle a un autre registre du vrai autrement. Et ça, c'est un passage pas évident à vivre, parce que le jeune, par exemple, s'il est mal accompagné, il va dire, la Bible, c'est comme le Père Noël, j'y crois plus, je crois à la science. Parce qu'il y a, la rupture abrupte, parce que son esprit critique, à partir de 9 ans, se met à être vraiment plus fort que l'affectif. Il veut comprendre, il est dans la logique. Il va à l'école, puis il dit, ils disent pas la même chose dans le cours à l'école que dans la Bible. Et donc, il est en rupture de sens.
Oui, il y a un problème. Puis c'est difficile.
C'est difficile. Il faut un accompagnement ajusté pour vivre ça. Il faut que l'animateur sache que sa question, elle est très pertinente.
Alors, il ne s'agit pas de donner une réponse, là.
Non.
Il faut que tu crois ça, c'est écrit comme ça.
Non, parce que si on dit « il faut que tu crois ça », c'est comme si on le gardait dans l'enfance de la foi avec un niveau de compréhension de premier niveau.
Alors qu'on veut qu'il
traverse
donc ce passage de vous parliez pour qu'il y ait du sens et qu'il y ait une rencontre.
Qu'il y ait un sens existentiel, que ça parle au cœur.
Que ça parle
de l'intérieur, que ça parle au sens de la vie et non pas comme une histoire de pensée que je dis « c'était peut-être bon dans ce temps-là, mais c'est pas bon pour moi ». Donc, ça nous concerne.
Colette Beauchemin, on ne peut pas s'arrêter ici. On devra faire une autre émission la semaine prochaine. Merci d'être avec nous. On va continuer à explorer justement cette catéchèse biblique symbolique, mieux la comprendre et mieux comprendre aussi le rôle de l'association de la catéchèse biblique symbolique. Colette Beauchemin, merci beaucoup.
Avec plaisir.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lysandre Duplé pour Radio VM. Merci à vous pour votre écoute, votre présence au micro Renaud Grégoire et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine.